France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. 2 ans après la promesse d'Emmanuel Macron, le gouvernement dévoile enfin un plan national contre l'infertilité. Mais au même moment, il renonce au plan grand âge, autre promesse du chef de l'État. Explication dans un instant avec Véronique Rebeyrotte et Rosalie Lafarge. Rachida Dati devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. La ministre de la Culture, à l'instar de ses prédécesseurs rue de Valois, a défendu la nécessité de préserver un audiovisuel public fort. La Russie et l'Ukraine ont échangé aujourd'hui 157 prisonniers de chaque côté. C'est le seul résultat concret des dernières négociations à Abu Dhabi. Nous ferons le point avec Virginie Pironon. À 18h15, maire pour quoi faire, notre rendez-vous avant les élections municipales. On s'intéresse aujourd'hui à ces élus qui se mobilisent pour relancer l'activité agricole dans leur commune. Il aura donc fallu attendre 2 ans pour que le gouvernement tienne l'une des principales promesses du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Le 16 janvier 2024, le chef de l'État avait appelé au réarmement démographique de la France pour enrayer la chute de la natalité. Et il avait promis ce jour-là un plan national contre l'infertilité, un fléau selon lui qui touche plus de 3 millions de Français. Bonsoir Véronique Rebeyrotte.
Bonsoir.
2 ans plus tard, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a enfin dévoilé ce matin ce plan.
Oui, un plan d'une 15aine de points. Un premier volet, le plus cossu, prévoit une vaste campagne de sensibilisation et de communication nationale. À la fin de l'été, chaque Français âgé de 29 ans va recevoir un message. Il contiendra, je cite, une information ciblée, équilibrée, à la fois sur la santé sexuelle et sur la santé reproductive. Et, promet le ministère, ce message ne sera pas prescriptif. Il veillera à rappeler que la contraception existe pour ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. L'idée première, c'est d'éviter le « si j'avais su » d'éviter de trop attendre alors que la fertilité chute vite avec l'âge et que les difficultés à concevoir sont souvent liées à des tentatives trop tardives. Dans un volet prise en charge, le ministère de la Santé met l'accent sur 2 maladies gynécologiques courantes pouvant être source d'infertilité, l'endométriose avec une amélioration du diagnostic et de la prise en charge et le syndrome des ovaires polykystiques, un trouble qui touche de nombreuses femmes mais qui reste largement absent des discours publics avec une prise en charge très coûteuse pour les patientes. Pas de détails sur ce qui pourrait évoluer d'ailleurs sur ce point à l'avenir. Le ministère de la Santé dit vouloir aussi augmenter la possibilité de congeler ses ovocytes avec la création de nouveaux établissements, 30aine. Cette congélation se heurte pour l'instant à de longues files d'attente. Ouverte au privé, la procédure restera gratuite.
Véronique Rebeyrotte, merci. Précisons que la ministre de la Santé n'a donné aucun chiffre sur le financement de ce plan contre l'infertilité. Un plan contre l'infertilité dont en revanche, le plan grand âge, lui, attendra. Ce plan était pourtant attendu dans les prochains jours pour améliorer l'aide aux personnes âgées en perte d'autonomie. Mais la ministre en charge du dossier, Charlotte Parmentier-Lecoq, est sur le départ. Elle veut retrouver son siège de députée à l'Assemblée, ce qui l'oblige à quitter le gouvernement d'ici la fin du mois. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Le cabinet de la ministre a confirmé hier soir le report de ce plan grand âge, même s'il s'agissait là aussi d'une promesse d'Emmanuel Macron, formulé celle-là en 2018.
Il est arrivé à l'Élysée à peine 1 an plus tôt. Devant le Congrès réuni à Versailles en juillet 2018, Emmanuel Macron pointe la transformation du grand âge, une dépendance de plus en plus médicalisée dans laquelle le président voit l'émergence d'un nouveau risque social.
Il nous faut donc construire pleinement le financement et l'organisation de ce nouveau risque social. Nous ne pouvons plus longtemps l'ignorer. Faire semblant.
Ils promettent une loi pour l'année suivante. Dire que depuis rien n'a été fait n'est pas vrai, mais le grand plan, très attendu par les professionnels du secteur, lui, se fait désespérément attendre. Attractivité des métiers, effort budgétaire, des mesures fortes sont réclamées compte tenu des évolutions démographiques prévues. Et ce nouveau report est dur à encaisser, même pour le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifousse, ancien directeur d'EHPAD.
Le statu quo est inacceptable. Il y a un décalage entre l'attendu de chacun d'entre nous sur ce que devrait être un accompagnement digne, que ce soit à domicile ou en établissement, et la réalité. Donc il faut donner des moyens à nos établissements, à nos services à domicile, pour faire en sorte qu'on puisse vieillir dignement, être accompagné. Donc ça, il faut agir. Et la responsabilité de quelque gouvernement que ce soit, c'est d'y aller. Mais il faut qu'on se dise les choses. Ça va coûter beaucoup d'argent.
S'il est convaincu que tout ne se réglera pas par une grande loi, il milite quand même pour qu'elle voie le jour. L'entourage de la ministre Parmentier-Lecoq laisse entendre que tout est prêt pour son successeur, mais aucune nouvelle date n'a été pour l'instant fixée pour que ce plan soit dévoilé.
Rosalie Lafarge. En mai 2022, dans le quartier de la Duchère à Lyon, René Hadjadj trouvait la mort après avoir été défenestré du 17e étage par son voisin. Cet homme de 89 ans, de confession juive, a été victime d'un acte antisémite, affirment ses proches et leur avocat. Le meurtrier est actuellement jugé devant la cour d'assises du Rhône. Et ce matin, l'avocate générale a requis contre lui une peine de 20 ans de prison, mais sans retenir la circonstance aggravante de l'antisémitisme, le compte-rendu d'audience de Mathilde Imberti.
Pour elle, quelques éléments sont là. Par exemple, ce voisin qui a entendu l'accusé menacer par son balcon des bandes de sales juifs. Mais pas suffisamment de faits concomitants au meurtre. Elle requiert 20 ans de réclusion sans la circonstance aggravante d'antisémitisme. C'est beaucoup plus clair pour l'avocat de la LICRA et du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives, qui pose la question, est-ce que cette horreur se serait produite si cet homme n'avait pas été juif ? René Hadjadj, défenestré, jeté vivant du 17e étage, qui avait dans sa poche un bout de papier avec une prière en hébreu. Ce papier sera déchiré par le meurtrier après le passage à l'acte. C'est nier la judaïté au-delà de la mort, souligne l'avocat. Cela signe le caractère antisémite. Et lui, l'accusé, qu'en dit-il ? Aux enquêteurs, à la cour, je ne suis pas un antisémite, j'étais énervé, c'était un coup de nerf, j'ai entendu une voix. Au moment du réquisitoire, dans son box, il se balance d'avant en arrière, les yeux mi-clos, le visage bouffi, en sueur. Il aura la parole une dernière fois avant le verdict.
Mathilde Imberti devant la cour d'assises du Rhône. Le verdict dans ce procès est attendu dans la soirée. Retour au calme à la commission d'enquête pour l'audiovisuel public. Hier, la journée avait été marquée par un véritable accrochage entre le rapporteur de la commission, le député ciotiste Charles Alloncle, et le président, l'élu Horizon Jérémy Patrier-Lettus. Changement d'ambiance aujourd'hui avec les auditions de Laurence Bloch, l'ancienne patronne de France Inter, et de Rachida Dati, entendue ce matin. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Aucun coup d'éclat de la part de la ministre de la Culture. Comme ses prédécesseurs hier, Rachida Dati a souligné l'importance de préserver l'audiovisuel public.
Avec d'abord ce rappel dans son propos liminaire.
Il n'y a pas de grande démocratie sans un audiovisuel public fort et à la hauteur de sa mission.
Puis lorsque la ministre doit répondre aux accusations de gabegie de l'audiovisuel public par le rapporteur Charles Alloncle.
L'audiovisuel public assure des missions de service public qui ne sont pas rentables. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous êtes déficitaire et ce n'est pas rentable, que vous avez une mauvaise gestion. Par exemple, il y a des programmes qui sont coûteux, pas rentables, mais c'est une nécessité de service public, parce qu'on s'adresse à tous les Français. On ne peut pas mettre sur le même plan la gestion d'un média privé et d'un service audiovisuel public.
C'est aussi ce qu'a souligné sa prédécesseure Rima Abdul-Malak, auditionnée hier ministre de la Culture entre 2022 et 2024, et aujourd'hui directrice du quotidien libanais L'Orient le Jour.
J'ai pu me rendre compte ces derniers mois de ce que coûte l'information. Et je peux vraiment vous le dire d'expérience, faire des reportages sur le terrain, ça coûte plus cher que d'avoir des panels avec des personnes qui donnent leur avis sur un plateau.
Les anciens ministres auditionnés hier qui ont largement défendu l'audiovisuel public, évoquant pour certains le besoin de réforme mais condamnant toute idée de privatisation, comme Franck Riester, initiateur du projet de holding, projet aujourd'hui défendu par Rachida Dati.
Tous les rapports le disent. Si effectivement il n'y a pas de réforme structurelle de l'audiovisuel public, il s'affaiblira et certains pans disparaîtront.
La ministre de la Culture qui a été interrogée sur l'affaire Le Grand Cohen qui a déclenché cette commission d'enquête après les propos de Thomas Legrand, on va faire ce qu'il faut pour Dati dans une vidéo volée. Rachida Dati a jugé inacceptable ses méthodes d'enregistrement à l'insu des gens, tout en déclarant ne pas apprécier le vocabulaire qualifié d'inapproprié par la ministre.
Fiona Mogada, merci. L'actualité des médias, c'est aussi le départ d'Adèle Van Rett qui quittera la direction de France Inter début mars. Selon le communiqué de la direction de Radio France, Adèle Van Rett a accepté d'anticiper son départ pour que la préparation de la rentrée 2026-2027 se fasse dans les meilleures conditions. Fin de citation. C'est Céline Pigalle qui la remplacera à la tête de France Inter. Céline Pigalle, l'actuelle directrice du réseau ICI, ex-France Bleu.
Oui.
Les nouvelles négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine ont pris fin à la mi-journée à Abu Dhabi. Peu de détails ont filtré à l'issue de ces pourparlers entre Ukrainiens et Russes sous l'égide des États-Unis. Seule avancée concrète, un échange de prisonniers cet après-midi entre les deux belligérants. Virginie Pironon, Volodymyr Zelensky a pris la parole à Kiev, l'occasion pour le président ukrainien de pointer des discussions difficiles avec Moscou et Washington.
Oui, selon Volodymyr Zelensky, la conversation se poursuit, mais assurément, dit-il, elle n'est pas simple. On veut avoir des résultats plus rapides et obtenir des garanties de sécurité réelles. Avant même l'annonce à la mi-journée de la fin des négociations, l'émissaire américain Steve Witkoff déclarait sur X que l'Ukraine et la Russie se sont entendus pour procéder à un nouvel échange de prisonniers. Aussitôt dit, aussitôt fait, 157 hommes de part et d'autre, 314 au total, ont été libérés. Pour les États-Unis, ce résultat a été obtenu, je cite, « grâce à des pourparlers de paix détaillés et productifs ». Des mesures comme celle-ci, écrit Steve Witkoff, démontrent qu'un engagement diplomatique soutenu donne des résultats concrets. Certes, les échanges n'avaient plus lieu depuis 5 mois, mais depuis le début de la guerre à grande échelle, il y a près de 4 ans, 7000 soldats ukrainiens ont pu être rapatriés grâce à des échanges directs entre les deux parties. Alors, 2 cycles de négociations de 2 jours sous égide américaine pour aboutir à cet échange. C'est le seul résultat public pour le moment de ces pourparlers d'Abu Dhabi. Un résultat bien loin des attentes, alors que les points essentiels comme la question des territoires du Donbass ou une trêve énergétique semblent en être restés au point mort.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France, toujours au chapitre diplomatique. Vladimir Poutine est prêt à prendre au téléphone Emmanuel Macron pour une discussion sérieuse. Déclaration aujourd'hui du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Emmanuel Macron qui a évoqué récemment la possibilité de reprendre le dialogue avec le maître du Kremlin. Je vais appeler Poutine un jour. Sergueï Lavrov qualifie ce soir de diplomatie pathétique ces propos du président français. Quand Donald Trump dope l'euro, la semaine dernière, la monnaie européenne valait 1,20 $, son plus haut niveau depuis 4 ans et demi. Elle affiche encore aujourd'hui 1,18 $. La monnaie américaine qui souffre des coups d'éclat du locataire de la Maison Blanche, ses menaces contre le Groenland et l'Iran, comme ses attaques répétées contre la Fed, la banque centrale des États-Unis. L'euro fort qui constitue un défi pour l'Europe, a estimé aujourd'hui la présidente de la BCE, la banque centrale européenne. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Correspondant à Bruxelles, Fabien, Christine Lagarde surveille de très près la situation.
Effectivement, pour plusieurs raisons. D'abord commerciale, car une monnaie trop forte rend les exportations moins compétitives. Or, la période est compliquée. En ce moment, sur le front du commerce international, les exportateurs européens font face aux droits de douane de Donald Trump. Le yuan chinois est, lui, au plus bas depuis 5 ans. Ensuite, il y a aussi une mise en garde assez claire, faite par Christine Lagarde cet après-midi sur l'inflation. C'est bien qu'elle baisse, estime en substance la présidente de la Banque Centrale Européenne. Mais il ne faudrait pas non plus qu'elle baisse trop.
Un euro plus fort pourrait faire tomber l'inflation à un niveau plus bas qu'attendu. Nous sommes déterminés à ce que l'inflation se stabilise autour de notre objectif de 2% à moyen terme.
Un niveau qui permet, selon la Banque Centrale Européenne, d'éloigner tout risque de récession tout en restant à un niveau modéré. L'inflation tombée à 1,7% en janvier sera donc suivie de près dans les prochains mois par les banquiers en chef de la zone euro qui ne s'interdisent pas de jouer si besoin sur leur taux directeur, ce qu'ils se sont refusés à faire aujourd'hui, optant pour une stratégie plus attentiste.
Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. Au Royaume-Uni, les nouvelles révélations dans l'affaire Jeffrey Epstein sont en train de fragiliser Keir Starmer. Le premier ministre travailliste obligé de s'expliquer sur Peter Mandelson, cette figure du Labour, qu'il avait nommé ambassadeur à Washington. Les documents publiés dimanche par le ministère américain de la Justice confirment les liens étroits de Mandelson avec le financier criminel sexuel. Gaëlle Joly, vous êtes notre correspondante à Londres. Cette affaire tombe au plus mauvais moment pour le chef du gouvernement britannique, déjà très affaibli politiquement.
Les révélations de ces derniers jours ont provoqué la colère des députés de tous bords, en particulier celle des travaillistes qui se sentent trahis. Keir Starmer a reconnu hier qu'il savait que Peter Mandelson avait continué à fréquenter Jeffrey Epstein, même après sa condamnation pour crimes sexuels. Malgré cela, il a choisi de le nommer ambassadeur à Washington il y a tout juste un an, avant que Mandelson ne démissionne en septembre dernier après une première salve de révélations. Mais les nouveaux documents rendus publics par la justice américaine sont encore plus embarrassants. En 2010, Peter Mandelson, alors ministre partageait des documents internes avec son ami Jeffrey Epstein, tout juste sorti de prison. Dans les derniers jours du gouvernement de Gordon Brown, il lui rendait même quotidiennement des comptes. Keir Starmer a pris la parole tout à l'heure lors d'un discours. Il s'est excusé. Je suis désolé. Désolé de ce qui vous a été fait. Désolé que tant de personnes en position de pouvoir vous aient trahi. Désolé d'avoir cru au mensonge de Mandelson et de l'avoir nommé.
Mais le Premier ministre a déjà perdu une part importante de son autorité au sein du Labour et cette affaire ne fait que raviver l'appétit de ses rivaux qui envisagent ouvertement sa succession.
Gaëlle Joly, correspondante de France Culture au Royaume-Uni. Cette dernière information concernant l'agression d'une enseignante en début de semaine à Sanary-sur-Mer dans le Var, eh bien on apprend à l'instant que l'agresseur, un élève de 14 ans, cet agresseur a été mis en examen et écroué. Un mot du temps demain, les nuages domineront sur la moitié nord. Alors que le soleil s'imposera des Pyrénées à la Méditerranée, les températures minimales iront de 1 à 11 degrés de l'est au littoral. L'après-midi, il fera entre 10 et 18 degrés.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire, notre rendez-vous hebdomadaire avant les municipales des 15 et 22 mars prochains. On s'intéresse ce soir à ces maires qui se battent pour promouvoir l'agriculture locale. En 2023, il ne restait que 350 000 exploitations agricoles en France. Il y en avait près de 700 000 au début de ce siècle. Pour favoriser l'installation des agriculteurs, les communes disposent de la maîtrise du foncier. Elles peuvent également jouer sur la valorisation des productions locales à travers notamment les projets alimentaires territoriaux. Exemple à Luzy, 2000 habitants dans la Nièvre. C'est un reportage de Nicolas Balu.
De l'épinard, de la mâche, de l'oignon botte, semis de carottes tardives.
Vincent Kenaert est maraîcher. Il vient des Yvelines et le voilà installé dans le Morvan, à Luzy, dans la Nièvre.
Alors on est sur la ferme de Montarmin, donc c'est une ferme communale, donc avec un morceau de terrain donc qui a été mis à disposition pour l'espace test, ainsi qu'un bâtiment d'exploitation pour stocker le légume, le matériel.
Un maraîcher, ici, c'est une anomalie, une exception. On est en terre de bovins charolais. Ici, les exploitations sont familiales et la filière d'élevage, tournée vers l'exportation, subit des baisses de rendement, l'augmentation du coût de production ou encore l'érosion des sols. La solution, la diversification. Jocelyne Guérin, maire de Luzy et candidate à sa réélection.
Les jeunes générations ont vite compris et se sont inscrits dans cette diversification avec d'autres activités toujours autour de l'élevage. Certaines fermes ont complété leur activité avec des élevages de cochons plein air, des moutons, des volailles. Certaines fermes se sont développées autour du tourisme, avec des gîtes, etc. Par contre, on n'avait pas de maraîchage.
La commune s'est inscrite dans le projet alimentaire territorial, le PAT, du pays Nivernais-Morvan, particulièrement rural. Vincent Kenaert verra au bout de sa troisième année si son activité est rentable. Ce n'est pas une évidence, selon Jean-Claude Desrayaux, candidat sans étiquette.
Il y a eu un certain nombre d'interrogations sur la viabilité de ce projet, avec des périodes d'activité largement réduites en hiver pour produire, même sous serre. C'est pas évident dans notre région.
C'est le département qui paie l'équipement du maraîcher. Vincent se rend sur les marchés alentours, mais surtout dans son contrat, la commune lui demande de fournir une partie de sa production à la cantine du collège de la ville, qui fournit également l'école primaire. C'est l'autre volet du PAT. La commune s'est fixée pour objectif l'autonomie alimentaire. Fabien Vatrou, chef cuisinier au collège Anthony Duvivier.
On prend un maximum de produits chez lui en fonction de ce qu'il peut nous fournir. On travaille également que de la viande locale, le fromage également tout local. Et donc l'objectif, c'est de faire manger aux enfants d'ici le plus de produits locaux, tout en respectant un budget parfois compliqué à gérer.
Quel budget ?
De 17.
2,17 € par repas, la subvention départementale, et c'est un défi. Aller moins loin pour trouver les produits, ça fait aussi partie de la solution. Aujourd'hui, 60% de l'alimentation du collège provient de produits locaux, selon la mairie. Et les repas sont aussi un moment clé de sensibilisation pour cuisiniers et agents communaux, selon Jocelyne Guérin.
Il y a toute une explication du repas. D'où vient la viande, d'où vient le fromage. C'est de l'échange toute la journée. Nos agents sont formés aussi là-dessus. Parce que quand ils coupent la viande ou qu'ils servent les élèves, ils leur disent, bah, tu sais, ça c'est la viande de ton voisin, etc. Et je pense que cette sensibilisation, c'est valorisant. Les producteurs sont mis en avant. La liste des producteurs, elle est affichée au collège. Et on est invité aussi de temps en temps à un repas où les gens de Luzy peuvent aller manger au collège. En passant par les enfants, on est sûr que ça va faire écho.
Mais pour être sûr d'avoir des producteurs locaux, la mairie rédige des appels d'offres bien particuliers.
C'est le rôle qu'on joue tous. On écrit un cahier des charges très exigeant sur l'empreinte carbone, la qualité, le suivi qu'on peut faire, l'économie locale. Enfin voilà, on met plein de critères qui fait que finalement, ça élimine les industriels.
Pour Jocelyne Guérin, impossible de suivre au quotidien les aspects du PAT. Alors comme d'autres, elle a embauché une personne pour être en relation avec tous les acteurs, agriculteurs, département de la Nièvre, État, un poste financé par les subventions européennes. Car pour arriver à faire tourner le projet, il a fallu aller à la chasse aux subventions de l'État, la CAF ou la Mutualité Sociale Agricole par exemple. Pour arriver à cette autonomie alimentaire locale, il faut donc du temps et de l'argent. Pour Jocelyne Guérin, ces opérations sont essentielles.
Le développement de certains cantons ruraux, nous, c'est l'agriculture. Donc il faut qu'on soit présent. Après, s'il faut 5 ans au lieu de 3 ans, l'essentiel, c'est de s'inscrire et donner de l'espoir au monde agricole et puis à la jeunesse, de développer des activités nouvelles, des métiers nouveaux. Je pense que ça peut donner du sens à leur orientation.
Quant à Vincent Kenaert, il verra à la fin de l'année s'il peut prolonger. Il en a l'envie, mais il ne gagne pas encore l'équivalent d'un SMIC.
Alors, faut-il voir dans ces projets alimentaires territoriaux la solution pour relancer l'agriculture en France ? Est-ce qu'ils permettent de valoriser la production locale tout en proposant un autre modèle agricole ? Élément de réponse avec Frédéric Wallet, économiste et chercheur à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Les projets alimentaires territoriaux ont maintenant une dizaine d'années. Ils ont été mis en place par la loi de 2014 et développés à partir de 2016. Ça a joué un rôle d'accélérateur par rapport à la prise en charge locale de ces questions alimentaires et agricoles. Ça a fait un effet de levier, notamment parce que ça a permis de renforcer un accès aux débouchés stables pour les agriculteurs locaux. Ça a permis de préserver les terres agricoles. Ça a aussi joué favorablement au développement des circuits courts. Alors, il faut savoir que c'est pas un dispositif qui est obligatoire. Aujourd'hui, on a un peu plus de 450 projets alimentaires territoriaux en France. Mais ça aide beaucoup, en fait, à une prise de conscience de ce que les élus locaux peuvent faire pour pouvoir faciliter le maintien de l'agriculture.
Ils sont confrontés à un problème, c'est que les moyens financiers alloués au PAT ne cessent de baisser.
Effectivement. Au départ, les dispositifs étaient faiblement dotés en financement public. Suite au plan de relance, on a eu une vraie accélération de la mise en place des PAT qui étaient mieux dotés sur le plan financier et qui ont permis la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions qui étaient beaucoup plus ambitieuses. Mais depuis 2 ans, on a une baisse des dotations qui limite la portée des évolutions.
Est-ce qu'il peut y avoir un décalage entre les attentes de l'État et celles des communes ou des groupements de communes ?
Si on regarde les stratégies locales, on a une grande palette de stratégies mises en place par les collectivités territoriales avec des communes qui vont plutôt insister sur le soutien aux filières locales, d'autres qui vont plutôt insister sur la question de la transition agroécologique ou la lutte contre la précarité alimentaire. Donc finalement, il y a une capacité d'adaptation de la politique nationale aux enjeux locaux qui est assez manifeste quand on regarde de près la mise en place des PAT notamment.
L'expérience montre qu'il faut aussi former des agents municipaux, par exemple, ou avoir des personnes en soutien. C'est donc aussi un investissement. C'est pas un peu compliqué aussi aujourd'hui pour les communes ?
Alors c'est vrai qu'il y a un enjeu très très important dans la mise en place de ces stratégies alimentaires locales autour des moyens qui sont déployés, à la fois au niveau des moyens financiers, parce que par exemple quand vous faites de la préemption sur du foncier agricole, il faut avoir les moyens financiers, mais aussi au niveau de l'ingénierie territoriale qui est nécessaire d'appliquer. Connaissance des réglementations, capacité d'intermédiation entre les différentes catégories d'acteurs au niveau local, que ce soit les agriculteurs ou les associations citoyennes, environnementalistes, etc. Donc il y a une nécessité vraiment de se former et de prendre conscience des enjeux à la fois pour les techniciens et les élus. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, les collectivités locales et les élus travaillent aussi avec des associations sur le territoire, que ce soit les associations agricoles ou les associations citoyennes, pour mettre en place, sensibiliser la stratégie et aussi essayer de faire remonter concrètement les besoins des populations et des professionnels.
En fait, ce que vous dites là, ça veut dire qu'il faut une réelle volonté politique ?
Alors, c'est essentiel. Toutes les études qui ont été menées autour de la mise en place des PAT ou des stratégies d'alimentation locale et de soutien aux filières mettent en évidence le rôle primordial des élus et de la volonté politique pour impulser et pérenniser aussi les démarches qui sont mises en œuvre.
Est-ce que c'est un thème de campagne, selon ce que vous observez ?
Oui, c'est un thème de campagne. L'alimentation, c'est une préoccupation quotidienne des Français. C'est aussi un domaine d'action sur lequel les élus ont le sentiment de pouvoir faire quelque chose pour améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Donc c'est quelque chose qui apparaît comme un axe intéressant des programmes de campagne.
Frédéric Wallet, économiste et chercheur à l'INRAE, interrogé par Nicolas Ballu. Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous avant les élections municipales à retrouver sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.